Bonjour à tous, bienvenue dans Santé chez vous, une chronique dédiée à la santé. Je suis Aude Leloup, coordinatrice de projet de santé pour la communauté professionnelle territoriale de santé Asclepios. C'est l'association qui représente les professionnels de santé libéraux et on se retrouvera une fois par mois sur l'antenne de Radioactive. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent anxiogène pour les aidants, l'alimentation. Pour cela, je suis en compagnie de Christelle Brunel, infirmière et infirmière azalée.
Bonjour.
Claudine Portejoie, diététicienne.
Bonjour.
Et par téléphone, Clément Lestel, médecin généraliste. Christelle, tu as souhaité qu'on aborde le sujet global de l'alimentation des aidés, mais pourquoi ?
Parce que sur le terrain, on se rend compte que l'alimentation est très source d'angoisse. On sait que quand votre personne aidée mange, c'est toujours rassurant. Par contre, pour commencer l'alimentation, il faut déjà avoir un état buccal sain. Du coup, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de blessures dans la bouche, pas de mycose, et avoir des dents en bonne santé. D'où l'intérêt d'avoir un brossage de dents régulier. Il est nécessaire aussi pour commencer un repas par hydrater la bouche. En fait, il est très difficile de déglutir quand on a la bouche sèche.
Donc l'hygiène de la bouche est importante, mais également la posture pour éviter les fausses routes. Claudine, peux-tu nous en dire plus ? Qu'est-ce qu'une fausse route ?
Eh bien, pour répondre à ta question, Aude, une fausse route, c'est quand on a des difficultés, quand il s'agit que l'aliment passe en fait entre la bouche et l'œsophage. Il y a trois étapes, donc l'aliment qui va être dans la bouche, ensuite dans le pharynx et l'œsophage. C'est un petit peu comme des portes qui s'ouvrent. Et quand il y a une fausse route, c'est qu'il y a un problème à un niveau, soit au niveau de la bouche, au niveau du pharynx, au niveau de l'œsophage. Alors, comment on repère en fait les fausses routes ? Eh bien, ça peut se manifester par une toux, un raclement de gorge, l'aliment qui revient, le retour de l'aliment en bouche, qui peut être immédiat, mais également qui peut être aussi à distance du repas. Certaines fausses routes sont silencieuses, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça a passé, et c'est quelques temps après où l'aliment en fait remonte un petit peu, on tousse, et en fait, voilà, l'aliment après est passé, et en fait, c'était une fausse route. Alors, pour éviter les fausses routes, qu'est-ce qui est important ? Eh bien, de bien s'installer, déjà d'avoir une bonne posture à table, d'éviter de manger dans le canapé, dans le lit, d'être avachi, essayer d'être droit. Surtout d'éviter d'avoir la tête orientée vers le haut. On voit souvent des télévisions qui sont quelquefois trop hautes. Et là, c'est souvent source de fausses routes. Être dans un environnement le plus calme possible, en effet, être installé en face de ses convives, ne pas parler, éviter de rire aussi en mangeant, en fait, c'est de se concentrer un petit peu sur son alimentation. Quand on mange aussi une première bouchée, on attend, on mastique bien, prendre des petites bouchées également, et attendre d'avoir avalé la première bouchée avant d'en prendre une deuxième. On se rend compte que quand on mange le froid, ou très froid, également le pétillant, de l'eau par exemple pétillante passe mieux que de l'eau plate, avec du sirop éventuellement rajouté dedans sans sucre. Donc il y a certaines petites astuces voilà, qui permettent, si l'eau plate ne passe pas, ben, l'eau gazeuse des fois passe mieux. On peut avoir aussi des fausses routes en prenant des médicaments, donc il faut vraiment les prendre un par un, c'est-à-dire une fois qu'un est bien avalé, se poser et prendre le deuxième, voilà, pas vouloir aller trop vite. S'il y a un trouble ou s'il y a un doute, par exemple, de fausse route, eh bien, il faut préférer avaler en penchant légèrement la tête, dans certains cas, vers l'avant. Alors, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ça peut aider aussi un petit peu. Alors, faire attention à certains aliments, bien entendu. Certains vont être collants, comme la salade, la pâte feuilletée, ou certains aliments à double texture, comme les clémentines, les tomates, ou des aliments qui sont dispersibles, c'est-à-dire la semoule, le pain grillé, également les cacahuètes, les fruits, les noix de cajou, les choses comme ça, qui sont plus sujets, en fait, aux fausses routes. Il faut surtout éviter de boire de l'eau quand on fait une fausse route. Si on a une fausse route, l'aliment, par exemple, s'il est bloqué en gorge, ben, il ne faut surtout pas boire. D'accord ? Il faut essayer de tousser, parce que si on boit, ça va faire un mélange de liquide et solide, et ça sera difficile à gérer cette texture-là. Donc on essaye de tousser, on nettoie bien aussi la bouche après le repas pour éviter qu'il y ait quand même un retour aussi, qu'il y ait une fausse route après si quelques aliments sont restés en bouche. Et surtout, attendre bien 15 minutes après le repas avant d'aller faire sa sieste, et éviter aussi de ne pas la faire trop allongée, éviter d'attendre le plus possible. Alors comment ça se passe quand il y a des fausses routes, quand une personne aidée a tendance à faire des fausses routes ? Eh bien il faut déjà en parler au médecin généraliste, consulter, le médecin généraliste va faire une prescription d'orthophonie, et ensuite l'orthophoniste va faire un bilan et va prendre en charge donc la personne justement aidée.
Et une fois que la personne est bien installée, hydratée, Peut-on dire que la personne âgée a les mêmes besoins qu'auparavant ?
Alors en fait, les personnes âgées ont les mêmes besoins qu'avant. En termes de qualité, on ne va pas gérer l'alimentation de la personne âgée sur la quantité, mais sur la qualité. On va prendre l'exemple des protéines. Souvent, les personnes âgées n'aiment plus la viande, mais elles ont toujours besoin de protéines. Les protéines, c'est très important pour se tenir en bonne santé, hein, pour avoir une musculature suffisante, mais aussi pour avoir un système immunitaire suffisant. C'est-à-dire, notre système immunitaire, il est fait de protéines. Les protéines, on ne les trouve pas que dans la viande. Hein. On peut très bien les trouver dans des végétaux, dans les lentilles, dans les pois chiches, dans tous les haricots secs. On en trouve aussi dans les fruits à coque. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il faut faire attention aux fausses routes. Hein. On ne peut pas donner tout à tout le monde. Mais on en trouve aussi là, on en trouve aussi dans les œufs, dans les petits suisses. Donc il y a tout un panel d'aliments qui peuvent remplacer la viande. On peut très bien enrichir un potage. Du coup, on apporte des fibres avec un petit suisse, avec une crème de gruyère, avec un peu de gruyère râpée qui va fondre. Ça, c'est tout à fait possible de le faire. Il faut bien sûr garder des fibres, donc les légumes et une part de féculents. Et surtout, ne pas oublier de se faire plaisir.
Donc, c'est les mêmes besoins qu'auparavant, mais il peut y avoir une diminution de l'appétit. Claudine, peux-tu nous dire comment peut-on le stimuler ?
Oui, en effet, souvent vieillissant, on a de moins en moins d'appétit et on est plus vite rassasié. Or, nos besoins alimentaires ne diminuent pas avec l'âge. On a vu que même certains étaient augmentés, le calcium, les protéines. Et donc, il est important de stimuler l'appétit. Mais comment le stimuler ? Déjà, il faut tenir compte des goûts de la personne, tout en variant le plus possible l'alimentation. Il faut tenir compte également de sa capacité à bien mâcher et à avaler et adapter les portions aux quantités que la personne aidée peut manger. Si une personne a un petit appétit, si on lui présente une assiette avec de grosses portions, souvent, en fait, ça risque de lui couper l'appétit et il vaut mieux se resservir si la personne en éprouve le besoin. Tout d'abord, nous allons parler un petit peu de l'environnement du repas, donc dans lequel le repas donc sera consommé. Une jolie table, par exemple avec une belle nappe, un petit bouquet de fleurs, une assiette, des couverts bien mis. Hein, si la personne est sensible, hein, après vous avez certaines personnes qui seront moins sensibles, mais certaines si elles sont sensibles, ça peut éveiller un petit peu l'appétit. Veillez également à ce que la personne soit confortablement installée à table. En effet, si déjà elle n'est pas très bien installée, elle sera moins enclin en fait à manger. Si la personne est vite rassasiée, on peut lui proposer de manger plus souvent dans la journée. On peut rajouter éventuellement un goûter ou des petites collations qui seront réparties tout au long de la journée, en gardant bien entendu trois repas principaux, le petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mais il faudra veiller quand même à ce qu'il y ait un temps de 3 heures minimum entre les repas et les collations. Pourquoi ? Parce qu'en vieillissant, en fait, la digestion est plus longue et plus difficile. Donc si on fait une collation qui va être trop proche du repas suivant, eh bien, on risque que la personne n'ait pas suffisamment d'appétit pour pouvoir manger après le repas. Donc, ça se traduit comment ? Souvent un petit goûter, hein, est très apprécié parce que l'après-midi est souvent long, donc on peut facilement avoir les 3 heures. Si une personne aidée, par exemple, se lève de bonne heure, hein, quelquefois elles sont réveillées de bonne heure, et si le petit déjeuner est de bonne heure, on peut totalement prévoir une petite collation dans la matinée. Donc, c'est souvent en fait d'alléger le repas si la personne a un petit appétit. Et ce que les personnes ne mangent pas au repas, par exemple, ça peut être des laitages, des fruits, des petits biscuits, eh bien, ils peuvent être pris en collation, donc à distance des repas. Et souvent, ça passe beaucoup mieux et c'est mieux toléré. Donc, toutes ces petites astuces de fractionnement peuvent aider donc pour éviter la dénutrition. Mais on mange avec les yeux, mais aussi avec le nez. La présentation des plats est très importante. En effet, on peut agrémenter le repas de persil, de rondelles de citron, un aliment, une jolie présentation peut donner aussi de l'appétit. Un repas coloré peut stimuler l'appétit. Un exemple, je vous donne par exemple un repas, chou-fleur vinaigrette, blanc de volaille, des pâtes, fromage blanc, une poire au sirop. Ce menu est blanc, vous êtes d'accord avec moi ? Si des fois par exemple on met un petit peu de persil sur le chou-fleur, déjà il sera plus coloré. Ou si on met des carottes râpées, on aura de la couleur. Ensuite, le blanc de volaille, on peut mettre des petits champignons. Et les pâtes, pour leur donner un petit peu de couleur, on peut mettre par exemple un coulis de tomate, éventuellement si c'est l'été, du basilic, ce qui aussi stimulera l'appétit. On peut laisser le fromage blanc, qui passe bien souvent chez les personnes surtout âgées. Et en dessert, on peut mettre un fruit coloreux, style des abricots quand c'est l'été, ou des clémentines, ou du kiwi quand c'est l'hiver. Voilà, donc déjà on s'aperçoit qu'un repas plus coloré va donner déjà plus envie de manger. Lorsqu'il s'agit de textures modifiées, comme une alimentation par exemple mixée, eh bien pour faire une belle présentation, on peut utiliser des emporte-pièces, on peut utiliser également un ramequin pour mettre par exemple du riz, des choses comme ça qu'on retourne dans l'assiette. On peut aussi la viande hachée la mettre en forme de quenelle à l'aide de 2 cuillères à soupe. Et on met ça dans l'assiette avec les légumes séparés. On évite de mélanger, que ça fasse une purée hein, toute mélangée, qui est beaucoup moins appétissante. Donc si on sépare bien et qu'on fait une petite présentation avec justement aussi la petite rondelle de citron, le petit persil, et on met la sauce à part, souvent bah, c'est pareil, ça donne beaucoup plus envie de manger. Ça stimule un petit peu. Je vous ai dit que l'appétit venait aussi avec le nez. Eh bien, on peut s'apercevoir qu'un plat mijoté, si la personne aime par exemple avec des plats qu'elle aime, le plat mijoté, quand il est mis sur la table, eh bien, il va dégager des saveurs, des arômes qui peuvent donner à la personne aidée envie de manger. De même, par exemple, un potage, si elle aime bien le potage, on met une soupière sur la table, ça va dégager des odeurs dans la pièce qui vont être agréables si la personne aime bien justement ce potage-là. Et tout ça, ça va mettre en appétit la personne. Alors, avec l'âge, il se peut aussi que l'on perçoive moins le goût des aliments.
Et justement, peux-tu nous donner quelques conseils en cas de perte de goût ?
Oui, pour répondre à ta question, Aude, eh bien, une bonne mastication, suffisamment longue, hein, si on mastique bien, par exemple, la première bouchée, eh bien, on va ressentir beaucoup plus la saveur des aliments, puisque les papilles gustatives sont sur la langue. On peut relever la saveur des aliments en utilisant aussi des aromates. Ciboulette, persil, le thym, basilic, oignon, l'ail, l'échalote et bien d'autres encore. Ou bien des épices, si la personne aime ça. Paprika, curry, poivre, cannelle, noix de muscade, qui peuvent être utilisées aussi bien dans les plats principaux, hein, sur des mets salés, mais également sur des desserts. Hein, la cannelle, on peut la mettre aussi en dessert, la vanille. Et également, on peut rajouter aussi dans certains plats de la moutarde, des coulis de tomates, du jus de citron, qui vont relever un petit peu les saveurs du plat et donner à la personne plus envie de manger, puisqu'elle va ressentir plus de goût. Une autre petite astuce aussi, mettre du beurre, de la crème fraîche sur des légumes, en quantité adaptée bien entendu, ou l'huile d'olive aussi pour cuisiner, qui aura un petit peu plus de saveur. On peut réserver aussi l'huile de colza dans les entrées pour l'assaisonnement. Eh bien, ces matières grasses auront pour rôle d'augmenter la saveur et l'onctuosité aussi des aliments. Donc, la personne sentira plus un petit peu le goût. On peut donner également plus de saveur aux aliments en rajoutant du sel, bien entendu, sans excès. Le sel rajouté juste avant de manger, par exemple, un aliment, donner beaucoup plus de saveur va être beaucoup mieux perçu que s'il est rajouté en cours de cuisson. Ça aussi, ça peut aider à limiter un petit peu la prise de sel tout en donnant de la saveur. Attention au régime sans sel, par exemple, qui est très anorexigène. Donc, il faut le faire vraiment quand c'est vraiment indispensable. Mais en vieillissant, voilà, il faut faire attention aussi que la personne ne perde pas l'appétit. Des températures aussi extrêmes diminuent la saveur des aliments. Quand on mange très chaud ou quand on mange très froid, on perçoit beaucoup moins les saveurs. Donc c'est vrai que le tiède est pas mal dans certains cas. On perçoit beaucoup mieux les saveurs.
On voit que l'alimentation est importante et complexe. J'imagine que les aidants ont toujours peur que leurs parents ou leurs aidés souffrent de dénutrition. Comment remarquer que son aidé est dénutri ? Peut-on avoir quelques repères, Clément ?
Donc il faut comprendre que la dénutrition, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce n'est pas simplement être maigre, mais que c'est surtout un état qui survient suite à un déséquilibre nutritionnel qui peut être provoqué soit par un manque en apport énergétique, en particulier en protéines, soit par une augmentation des dépenses ou des pertes énergétiques, qui est souvent secondaire à une maladie préexistante, soit à ces deux phénomènes à la fois.
Et pourquoi est-il important de la dépister ?
Alors tout d'abord, parce que c'est quelque chose de plus fréquent qu'on ne le pense. On estime que la dénutrition touche jusqu'à une personne âgée sur 10 parmi celles qui vivent à leur domicile et que cela concerne une personne sur 3 parmi celles vivant en EHPAD. Ensuite, parce que ses conséquences sont potentiellement sérieuses. On sait qu'elle altère la qualité de vie des personnes âgées et donc leur confort de vie, qu'elle peut réduire leur espérance de vie en aggravant le pronostic de leur maladie chronique, et qu'elle aboutit très souvent à une perte de leur autonomie. C'est donc pour tout cela qu'il est important de savoir la dépister, car plus tôt on la repère, plus il est facile de rétablir l'équilibre nutritionnel et d'en prévenir les complications.
Dans quelles circonstances une dénutrition risque de survenir ? Est-ce que ça peut toucher n'importe qui ?
Alors une dénutrition n'arrive pas par hasard. On identifie 3 types de situations à risque où il faut faire preuve de vigilance. Première situation, c'est lorsque vous constatez une diminution au niveau des repas. Une réduction des apports alimentaires, quelle qu'en soit son importance, mais qui durerait pendant plus de 2 semaines, ou une réduction de plus de la moitié des repas sur une période d'une semaine, risque d'aboutir à une dénutrition. Deuxième situation, en présence d'une mauvaise absorption des aliments, principalement en cas de maladie de l'appareil digestif, que ce soit les intestins, le pancréas, le foie, ou chez les personnes qui ont subi une opération des intestins, par exemple. Et puis troisième situation, c'est tout simplement l'existence d'une maladie, qu'elle soit aiguë et transitoire, et en ce moment c'est particulièrement le cas avec l'épidémie de grippe et de Covid-19, ou qu'elle soit chronique, et on peut citer les maladies cardiaques, les maladies respiratoires et même neurologiques. Et il faut faire attention puisque les personnes souffrant également de démence, comme la maladie d'Alzheimer et les maladies psychiatriques qui souffrent de dépression, sont aussi exposées à un risque de dénutrition. Et enfin, je citerai en particulier les personnes qui ont des cancers, qui sont très exposées à ce risque de dénutrition, soit du fait de leur maladie en elle-même, ou des effets indésirables des chimiothérapies.
Et à quels signes les aidants doivent-ils faire attention si un de leurs proches se trouve dans une des situations que tu as décrites ?
Alors dans ce cas, il faut prendre l'habitude de surveiller son poids régulièrement, au minimum une fois par mois et si possible davantage, et surtout de noter ce poids sur un carnet pour en suivre l'évolution. Parce que est considéré comme un signe de dénutrition une perte de poids supérieure à 5% sur une période d'un mois ou de plus de 10% sur une période de 6 mois. À titre d'exemple, chez un individu dont le poids de base serait de 60 kg, cela équivaudrait à une perte de 3 kg en un mois ou de 6 kg en 6 mois. Ensuite, il peut être utile pour les aidants de savoir calculer un indice de masse corporelle. C'est relativement simple, vous prenez le poids en kilos et vous le divisez par la taille au carré. Et chez une personne âgée, un indice de masse corporelle inférieur à 22 peut témoigner d'une dénutrition. Alors 22, vous avez un aspect de corpulence qui est normal, puisque chez un individu plus jeune, on considère une dénutrition à partir d'un indice de masse corporelle inférieur à 18. Donc il faut bien garder en tête qu'une personne peut être dénutrie sans être maigre. Et puis enfin, il faut faire attention à l'apparition d'une perte de force musculaire ou de la masse musculaire, et par exemple l'apparition de difficultés répétées d'une personne pour se relever de sa chaise, pour desserrer ou dévisser des objets du quotidien, sont des signes d'alerte de dénutrition.
Et quel est le rôle des médecins généralistes dans la dénutrition d'un patient ? Quelle aide vous pouvez apporter ?
Alors, nous sommes souvent le premier recours vers lequel se tournent les proches d'un patient lorsqu'une dénutrition est suspectée. Et il est vrai qu'en tant que médecin traitant, nous sommes bien placés pour en repérer les signes et en évaluer la sévérité, puisque nous connaissons bien les pathologies dont souffrent nos patients et que nous sommes amenés à les examiner régulièrement. Il est donc assez simple pour nous d'identifier un risque de dénutrition et en cas de situation complexe, comme par exemple lorsque la personne ne peut pas être pesée, nous pouvons nous aider de grilles d'évaluation ou d'examens sanguins. Et puis nous avons également un rôle important à jouer dans la prise en charge de cette dénutrition, car nous avons la possibilité de prescrire des compléments alimentaires pour augmenter l'apport quotidien en protéines et en calories parallèlement au repas. Ces compléments en cas de dénutrition sont remboursés par l'assurance maladie et il en existe désormais une très grande variété en termes de texture et de goût, aussi bien sucré que salé, et ce afin de convenir à un maximum de personnes. Et puis enfin, nous avons aussi un rôle d'orientation vers d'autres professionnels de santé qui peuvent vous proposer des pistes pour améliorer l'apport nutritionnel des repas. Et je pense en particulier aux diététiciennes, dont le rôle n'est pas uniquement de prescrire des régimes pour perdre du poids. Je pense aussi aux orthophonistes, en particulier si la personne souffre de troubles de déglutition. Et je pense également aux infirmières allées, avec qui certains médecins dont je fais partie collaborent déjà pour le suivi de pathologies chroniques de certains patients.
Merci Clément.
Je vous en prie.
C'est la fin de cette chronique. Merci à toutes d'y avoir participé. Merci Claudine, Christelle.
Merci
Clément. Vous pouvez réécouter cette chronique en podcast sur le site de Radioactive sur le www.radioactivefm.fr. Merci également à David Marion qui était à la technique. Et on se retrouve dans un mois pour parler de la BPCO et du sevrage tabac avec Gilles Conant. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.